Chapitre 30. Le renvoi de Severus Rogue. Dès l'instant où le doigt d'Alecto toucha la marque, la cicatrice de Harry le brûla sauvagement. La pièce étoilée disparut de son champ de vision et il se retrouva sur un amas de rochers, sous une falaise, la mer bouillonnante autour de lui. Dans son cœur, il éprouvait un sentiment de triomphe. Ils avaient capturé le garçon. Un bang sonore ramena Harry à la réalité. Désorienté, il brandit sa baguette, mais la sorcière tombait déjà en avant et s'écrasa si violemment sur le sol que les vitres des bibliothèques tintèrent.
« Je n'avais encore jamais stupéfixé personne, sauf dans les cours de la D, » dit Luna, d'un ton vaguement intéressé. « Ça fait beaucoup plus de bruit que je ne le pensais. »
En effet, le plafond s'était mis à trembler. Des pas précipités de plus en plus sonores retentissaient derrière la porte des dortoirs. Le sortilège de Luna avait réveillé les serres d'aigle qui dormaient au-dessus.
« Luna, où es-tu? Il faut que je retourne sous la cape !»
Les pieds de Luna apparurent. Il se hâta de la rejoindre et elle laissa retomber la cape sur eux au moment où la porte s'ouvrait, livrant passage à un flot de serres d'aigle en tenue de nuit qui se déversa dans la salle commune. Des exclamations de surprise fusèrent de toutes parts lorsqu'ils virent Alecto évanoui par terre. Avançant lentement, leurs pieds traînant sur le sol, ils se rapprochèrent d'elle comme d'une bête sauvage qui pouvait se réveiller à tout moment et les attaquer. Un élève de première année, plus courageux que les autres, se roua alors sur elle et lui enfonça son gros orteil dans les fesses.
« On dirait qu'elle est morte !»
s'écria-t-il d'un air réjoui.
« Oh, regarde !»
chuchota Luna, ravie, en voyant les serres d'aigle se presser autour d'Alecto.
« Ils sont contents. »«
Ouais, c'est très bien. »
Harry ferma les yeux, et tandis que sa cicatrice continuait de palpiter douloureusement, il décida de replonger dans l'esprit de Voldemort. Il avançait le long du tunnel qui conduisait à la première caverne. Il avait choisi de vérifier d'abord le médaillon avant de se rendre à Poudlard, mais cela ne lui prendrait pas beaucoup de temps. Un coup sec fut frappé à la porte de la salle commune et les serres d'aigle se figèrent. De l'autre côté, Harry entendit la voix douce, mélodieuse, s'élever du heurtoir.
« Où vont les objets disparus ?»
demanda-t-elle.
« Mais j'en sais rien, moi ! Tais-toi !»
gronda une voix grossière que Harry reconnut comme celle d'Amicus, le frère d'Alecto.
« Alecto ? Alecto, tu es là ? Tu l'as vu ? Ben, ouvre la porte !»
Les serres d'aigle terrifiés chuchotaient entre eux. Puis tout à coup, il y eut une série de bangs sonores, comme si quelqu'un tirait des coups de feu dans la porte.
« Alecto ! Ah, si jamais il vient et que nous ne puissions pas lui livrer Potter ! Tu veux qu'il nous arrive la même chose qu'au Malfoy ? Réponds-moi »
mugit Amicus en secouant de toutes ses forces la porte qui refusait toujours de s'ouvrir. Les serres d'aigle reculaient et les plus effrayés d'entre eux remontèrent précipitamment l'escalier pour rejoindre leur lit. Puis, au moment où Harry se demandait s'il ne devait pas ouvrir la porte à la volée et stupéfixer Amicus avant qu'il ait pu faire quoi que ce soit, une deuxième voix encore plus familière résonna de l'autre côté du panneau de bois.
« Puis-je savoir à quoi vous vous occupez, professeur Caro ?»«
Ben, j'essaye de pousser cette fichue porte !» s'écria Amicus. « Allez me chercher Flitwick ! Il faut qu'il me l'ouvre tout de suite !»«
Votre sœur n'est-elle pas à l'intérieur ?»
demanda le professeur McGonagall.
« Le professeur Flitwick ne l'a-t-il pas laissé entrer un peu plus tôt dans la soirée, à votre demande express ? Peut-être pourrait-elle vous ouvrir ? Ainsi, vous n'aurez pas besoin de réveiller tout le château. »«
Elle ne répond pas, espèce de vieille mégère ! Ouvrez-moi, vous ! Allez, vite, ouvrez !»«
Certainement, si vous le désirez, »
répondit le professeur McGonagall avec une redoutable froideur. Il y eut un léger coup frappé sur le heurtoir et la voix mélodieuse demanda à nouveau «
Où vont les objets disparus ?»«
Dans le non-être, c'est-à-dire dans le tout, »
répondit le professeur McGonagall.
« Joliment formulé, »
répliqua le heurtoir en forme d'aigle, et la porte pivota sur ses gonds. Les quelques élèves de serre d'aigle qui étaient restés dans la salle commune se précipitèrent dans l'escalier lorsque Amicus franchit le seuil d'un bond, sa baguette brandie. Le dos rond, comme sa sœur, il avait des yeux minuscules et un visage blafard, pâteux, dont les traits s'affaissèrent quand il vit Alecto étendu inerte sur le sol. Il laissa alors échapper un hurlement de fureur et de peur.
Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait, ce petit morveux ?
S'écria-t-il.
Je vais les soumettre au sortilège de Loris, jusqu'à ce qu'il me donne le nom du coupable.
Et que va dire le Seigneur des Ténèbres ?
S'exclama-t-il d'une voix perçante en se frappant le front, debout devant sa sœur.
Nous n'avons pas réussi à l'attraper, et voilà qu'ils l'ont tué, la malheureuse !
Elle est simplement stupéfixée, rectifia d'un ton irrité le professeur McGonagall, qui s'était penché pour examiner Alecto. Elle s'en remettra très bien.
Mais non ! Bougre de diable ! Elle ne s'en remettra pas !
Beugla Amicus.
Pas après que le Seigneur des Ténèbres lui aura mis la main dessus. Elle l'a appelé. J'ai senti ma marque à moi qui me brûlait. Et lui, il croit qu'on a eu Potter.
Et qu'on a eu Potter ? Répéta le professeur McGonagall d'un ton brusque. Qu'est-ce que vous entendez par « on a eu Potter » ?
Il nous a dit que Potter allait peut-être essayer d'entrer dans la tour de Serdaigle et qu'il fallait le prévenir si on l'attrapait.
Et pourquoi Potter chercherait-il à entrer dans la tour de Serdaigle ? Potter appartient à ma maison.
Derrière l'incrédulité et la colère, Harry perçut une nuance de fierté dans sa voix et il sentit monter en lui une vague d'affection pour Minerva McGonagall.
On nous a dit que ça se pourrait bien qu'ils viennent ici, reprit Caro. Mais moi, je sais pas pourquoi, hein ?
Le professeur McGonagall, penché sur Alecto, se releva et ses petits yeux brillants balayèrent la pièce. Par deux fois, son regard passa à l'endroit où se tenaient Harry et Luna.
On pourrait peut-être mettre ça sur le dos des gamins,
poursuivit Amicus, son visage porcin prenant soudain une expression rusée.
Ouais, c'est ce qu'on va faire. On va dire qu'Alecto a été attaqué par les mômes, ceux qui sont là-haut, dans le dortoir.
Il leva les yeux vers le plafond étoilé.
Et alors, on dira qu'ils l'ont forcé à appuyer sur la marque et que c'est pour ça qu'il y a eu une fausse alerte. Il aura qu'à les punir. Deux ou trois gamins de plus ou de moins, quelle différence ?
La simple différence entre la vérité et le mensonge, le courage et la lâcheté, répliqua le professeur McGonagall, qui avait pâli. Bref, une différence que votre sœur et vous-même semblez incapables de mesurer. Mais je voudrais qu'une chose soit bien claire. Vous ne ferez pas porter aux élèves de Poudlard la responsabilité de vos nombreuses inepties. Je ne le permettrai pas.
Pardon ?
Amicus s'avança vers le professeur McGonagall, si près que c'en était offensant, son visage à quelques centimètres du sien. Elle refusa de reculer et le regarda de haut comme s'il n'avait été qu'une répugnante saleté sur un siège de toilette.
On s'en fiche de ce que vous permettez, Minerva McGonagall. Votre époque est terminée. C'est nous qu'on commande ici. Alors maintenant, hein, et vous serez de mon côté ou alors vous le payez cher.
Et il lui cracha la figure. Harry se débarrassa de la cape, leva sa baguette et dit simplement
« Vous n'auriez pas dû faire ça !» Au moment où Amicus pivotait sur ses talons, Harry s'écria
« Andaloris !»
Le mange-mort fut arraché du sol. Il se tortilla dans les airs à la manière d'un homme qui se noie, se débattant, hurlant de douleur. Puis, dans un fracas de verre brisé, il s'écrasa contre une bibliothèque et s'effondra par terre inconscient.
« Je comprends ce que Bellatrix voulait dire, » commenta Harry, le sang battant dans sa tête. « Il faut vraiment vouloir la souffrance de l'autre. »
« Potter !»
murmura le professeur McGonagall, une main contre son cœur.
« Potter ! Vous êtes ici ! Mais comment ?»
Elle s'efforça de reprendre contenance.
« Potter, c'était idiot !»«
Il vous a craché dessus, » dit Harry.
« Potter, c'était très chevaleresque de votre part, mais vous rendez-vous compte de... »
« Oui, parfaitement, » assura Harry. D'une certaine manière, la panique du professeur McGonagall avait sur lui un effet apaisant.
« Professeur, Voldemort arrive. »«
Ah, tiens, on a le droit de prononcer son nom maintenant, » demanda Luna avec un certain intérêt en ôtant la cape d'invisibilité. L'apparition d'un deuxième hors-la-loi sembla terrasser le professeur McGonagall qui recula d'un pas chancelant et tomba dans un fauteuil proche, serrant le col de sa robe de chambre écossaise. « Je pense que la façon dont on l'appelle n'a pas d'importance, » répondit Harry à Luna. Il sait déjà que je suis ici. Dans une partie lointaine de son cerveau, la partie directement reliée à sa cicatrice brûlante, cuisante, il voyait Voldemort traverser très vite le lac noir à bord du petit bateau vert au contour fantomatique. Il avait presque atteint l'île où se trouvait le bassin de pierre.
« Vous devez fuir !» murmura le professeur McGonagall. « Tout de suite, Potter, aussi vite que possible !»«
Je ne peux pas !» répliqua Harry. « Je dois d'abord faire quelque chose. Professeur, savez-vous où se trouve le diadème de Serre d'Aigle ?»«
Le diadème de Serre d'Aigle ? Mais bien sûr que non ! N'est-il pas perdu depuis des siècles ?»
Elle se redressa un peu dans son fauteuil.
« Potter, c'est de la folie, de la pure folie d'être entré dans ce château !»«
Il le fallait !» assura Harry. « Professeur, il y a ici un objet caché que je suis censé retrouver, et il s'agit peut-être du diadème. » Si seulement je pouvais parler au professeur Flitwick. Il y eut alors un bruit de mouvement, un tintement de verre. Amicus reprenait connaissance. Avant que Harry ou Luna aient pu réagir, le professeur McGonagall se leva, pointa sa baguette sur le mange-mort, hébété, et lança « Impero !» Amicus se remit debout, s'approcha de sa sœur, lui prit sa baguette, puis s'avança docilement vers le professeur McGonagall et la lui donna en même temps que la sienne. Ensuite, il alla s'allonger par terre à côté d'Alecto. Le professeur McGonagall agita à nouveau sa baguette, et une corde argentée jaillit du néant pour s'enrouler comme un serpent autour des carreaux qu'elle ligota étroitement l'un à l'autre.
« Potter !»
reprit le professeur McGonagall, qui s'était tourné à nouveau vers lui en abandonnant avec une superbe indifférence les carreaux à leur triste sort. « Si celui dont on ne doit pas prononcer le nom sait véritablement que vous êtes ici, au même moment, une colère semblable à une douleur physique traversa Harry, enflammant sa cicatrice. Pendant un instant, il regarda le bassin dont la potion s'était éclaircie et vit qu'aucun médaillon d'or ne reposait sous sa surface.
« Potter, ça va ?»
dit une voix. Il revint aussitôt dans son propre espace, cramponné à l'épaule de Luna pour conserver son équilibre. « Nous n'avons plus beaucoup de temps. Voldemort se rapproche. « Professeur, j'agis sur les ordres de Dumbledore. Je dois trouver ce qu'il voulait que je trouve. Et il faut faire sortir les élèves pendant que je fouille le château. C'est moi que veut Voldemort, mais tuer quelques personnes de plus ou de moins ne le dérangera pas maintenant. Maintenant qu'il sait que je m'en prends aux Horcruxes, acheva Harry pour lui-même.
« Vous agissez sur les ordres de Dumbledore ?»
répéta le professeur McGonagall, une expression d'étonnement naissant sur son visage. Elle se redressa alors de toute sa hauteur.
« Nous allons protéger l'école contre celui dont on ne doit pas prononcer le nom, pendant que vous chercherez cet objet. C'est possible ?»«
Je le pense !»
répondit sèchement le professeur McGonagall.
« Nous autres enseignants ne manquons pas d'une certaine compétence en matière de magie, savez-vous ?» Je suis sûr que nous parviendrons à le retenir un moment si nous conjuguons nos efforts. Bien sûr, il faudra faire quelque chose en ce qui concerne le professeur Rogue. Je voudrais... Et si Poudlard doit être en état de siège, avec le Seigneur des Ténèbres à ses portes, il serait souhaitable d'évacuer le plus grand nombre possible d'innocents. Mais avec le réseau des cheminées sous surveillance et l'impossibilité de transplaner dans l'enceinte de...
Il y a un moyen, l'interrompit Harry. Il lui parla du passage qui menait à la tête de sanglier.
« Potter, il s'agit de centaines d'élèves !»«
Je sais, professeur, mais si Voldemort et les Mangemorts se concentrent sur l'enceinte de l'école, ils ne s'intéresseront pas à ceux qui transplanent hors de la tête de sanglier. »«
Il y a du vrai dans ce que vous dites, » admit-elle.
Elle pointa sa baguette sur les carreaux et un filet argenté tomba sur leur corps ligoté, les enveloppa, et les souleva dans les airs où ils restèrent suspendus sous le plafond bleu et or, telles deux créatures marines énormes et repoussantes.
« Venez, nous devons prévenir les autres directeurs de maison. Vous feriez bien de remettre cette cape. »
Elle s'avança vers la porte d'un pas résolu et leva sa baguette. De son extrémité jaillirent trois chats argentés avec des marques de lunettes autour des yeux. Les patronus se précipitèrent en souplesse, emplissant l'escalier en colimaçons de lumière argentée, tandis que le professeur McGonagall, Harry et Luna se hâtaient de redescendre les marches. Ils filèrent le long des couloirs et, un par un, Les patronus partirent de leur côté. La robe de chambre écossaise du professeur McGonagall effleurait le sol dans un bruissement, et Harry et Luna couraient derrière elle sous la cape d'invisibilité. Ils avaient descendu deux autres étages lorsque des bruits de pas feutrés se joignirent aux leurs. Harry, dont la cicatrice était toujours cuisante, les entendit le premier. Il tâtonna dans la bourse accrochée à son cou à la recherche de la carte du maraudeur, mais avant qu'il ait pu la sortir, McGonagall s'aperçut à son tour qu'ils avaient de la compagnie. Elle s'immobilisa, brandit sa baguette prête à se battre en duel et demanda « Qui est là ?»«
C'est moi, » répondit une voix basse.
Severus Rogue sortit de derrière une armure. En le voyant, Harry sentit la haine bouillonner en lui. L'ampleur des crimes de Rogue lui avait fait oublier les détails de son apparence. Il avait oublié la façon dont ses cheveux gras et noirs tombaient autour de son visage maigre, oublié le regard mort, glacé de ses yeux sombres. Rogue ne portait pas de vêtements de nuit. Il était habillé de son habituelle cape noire et lui aussi brandissait sa baguette, prêt au combat.
« Où sont les carreaux ? » demanda-t-il à mi-voix.
« Là où vous leur avez dit d'aller, Severus, j'imagine, » répondit le professeur McGonagall.
Rogue s'approcha, et son regard se tourna de tous côtés autour du professeur McGonagall, scrutant les environs comme s'il savait que Harry était là. Celui-ci avait également levé sa baguette, prêt à attaquer.
« J'ai eu l'impression, » dit Rogue, « qu'Alecto avait appréhendé un intrus. »«
Vraiment ?»
répondit le professeur McGonagall.
« Et qu'est-ce qui a bien pu vous donner cette idée ?»
Rogue plia légèrement le bras gauche, là où la marque des ténèbres était gravée dans sa peau.
« Ah, bah oui, bien sûr !» reprit le professeur McGonagall. « Vous autres, les mange-morts, vous avez vos propres moyens de communication, j'avais oublié. »
Rogue fit semblant de ne pas l'avoir entendu. Ses yeux inspectaient toujours le couloir autour d'elle, et il s'avançait peu à peu, comme si de rien n'était.
« Je ne savais pas que c'était votre tour de patrouiller dans les couloirs, Minerva. »«
Vous y voyez un inconvénient ?»«
Je me demandais ce qui pouvait bien vous avoir sorti du lit à cette heure avancée de la nuit. »«
J'ai cru entendre du bruit, » répondit le professeur McGonagall.
« Vraiment ? Tout semble calme pourtant. »
Rogue la regarda dans les yeux.
« Avez-vous vu Harry Potter, Minerva ? Parce que si vous l'avez vu, je dois insister. »
Le professeur McGonagall réagit plus vite que Harry ne l'en aurait cru capable. Sa baguette fendit l'air, et l'espace d'un instant, il pensa que Rogue allait s'effondrer inconscient, mais son charme du bouclier agit avec une telle rapidité que McGonagall en perdit l'équilibre. Elle pointa sa baguette vers le mur et l'une des torches qui éclairait le couloir jaillit de son support. Harry s'apprêtait à lancer un maléfice sur Rogue, mais il dut tirer Luna hors de la trajectoire des flammes qui descendaient sur eux. Elles se transformèrent en un cercle de feu qui emplit l'espace du couloir et fondit sur Rogue à la manière d'un lasso. Les flammes disparurent pour laisser place à un grand serpent noir. McGonagall le fit alors exploser en une épaisse fumée qui se reforma, se solidifia en quelques secondes, puis se métamorphosa en un essaim de poignards lancé vers leur cible. Rogue ne parvint à les éviter qu'en poussant l'armure devant lui, et, dans un fracas métallique dont l'écho résonna tout au long du couloir, les poignards vinrent se planter les uns après les autres dans le plastron d'acier.
« Minerva !»
s'exclama une petite voix aiguë. Harry, qui protégeait toujours Luna des sortilèges volants autour d'eux, jeta un regard derrière lui et vit les professeurs Flitwick et Shurave arriver en courant dans leurs vêtements de nuit, suivis de l'énorme professeur Slughorn qui haletait derrière eux.
« Non !»
cria Flitwick, sa baguette levée.
« Vous ne tuerez plus personne à Poudlard !»
Le sortilège de Flitwick frappa l'armure derrière laquelle Rogue s'était réfugié. Dans un bruit de ferraille, elle s'anima. Rogue se débattit pour se dégager de ses bras qui l'enserraient, puis la projeta sur ses attaquants. Harry et Luna durent plonger de côté pour l'éviter et elle s'écrasa contre le mur en se disloquant. Lorsque Harry releva la tête, Rogue prenait la fuite à toutes jambes, poursuivi par McGonagall, Flitwick et Shurave. Il s'engouffra dans une salle de classe, et quelques instants plus tard, Harry entendit McGonagall s'écrier
« Lâche ! Lâche ! »
« Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ?»
demanda Luna. Harry la releva, et ils se ruèrent dans le couloir, traînant derrière eux la cape d'invisibilité. Puis, entrèrent à leur tour dans la salle de classe vide, où les professeurs McGonagall, Flitwick et Shurave se tenaient côte à côte devant une fenêtre défoncée.
« Il a sauté !»
dit le professeur McGonagall au moment où Harry et Luna arrivaient en courant.
« Vous voulez dire qu'il est mort ?»
Harry se précipita vers la fenêtre, ne prêtant aucune attention aux cris de stupeur que poussèrent Flitwick et Shurave en le voyant soudain apparaître.
« Non, il n'est pas mort !»
répondit McGonagall d'un ton amer.
« À la différence de Dumbledore, il avait toujours sa baguette, et il semble que son maître lui ait appris quelques petites choses. »
Avec un frisson d'horreur, Harry vit au loin une forme massive, semblable à une chauve-souris, voler dans l'obscurité en direction du mur d'enceinte. Des pas lourds résonnèrent derrière eux, et ils entendirent souffler bruyamment. Slughorn venait de les rejoindre.
« Harry !»
dit-il à bout de souffle, massant son large torse sous son pyjama de soie vert émeraude.
« Mon cher ami, quelle surprise !» « Minerva, s'il vous plaît, expliquez-moi, Sévrus, que... »«
Notre directeur fait une petite pause, » répondit le professeur McGonagall, en montrant un trou en forme de rogue au milieu de la fenêtre.
« Professeur !»
s'écria Harry en se tenant le front. Il voyait le lac peuplé d'inféries glisser au-dessous de lui. Il sentit le bateau verdâtre fantomatique heurter la rive souterraine, et Voldemort sauta à terre avec, dans le cœur, une envie de meurtre.
« Professeur, il faut barricader l'école. Il vient maintenant. »«
Très bien. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom arrive, » dit-elle aux autres enseignants. Shurave et Flitwick étouffèrent une exclamation. Slughorn laissa échapper un grognement sourd.
« Potter a un travail à accomplir dans le château sur ordre de Dumbledore. Il faut que nous mettions en place toutes les protections possibles pendant qu'il mènera sa tâche à bien. »
« Vous vous rendez compte, bien sûr, que rien de ce que nous pourrons faire n'arrivera à maintenir indéfiniment vous savez qui à distance, » couina le professeur Flitwick.
« Mais nous pouvons le retarder, »
affirma le professeur Shurave.
« Merci, Pomona, »
dit le professeur McGonagall. Les deux sorcières échangèrent un regard sombre qui montrait qu'elles se comprenaient.
« Je suggère de dresser autour des lieux des défenses élémentaires, puis de nous rassembler avec nos élèves dans la grande salle. » La plupart d'entre eux doivent être évacués. Mais si certains, parmi ceux qui sont majeurs, veulent rester pour combattre, je pense qu'il faut leur en donner la possibilité.
« D'accord !»
approuva le professeur Shurave, qui se hâtait déjà vers la porte.
« Je vous retrouve dans la grande salle dans 20 minutes avec les élèves de ma maison !»
Et tandis qu'elle s'éloignait au pas de course, il entendit marmonner.
« Tentacula, filet du diable et gousse de Snargalouf, j'aimerais bien voir les mange-morts se battre contre ça !»
« Je peux agir d'ici !» assura Flitwick. Bien qu'il pût à peine regarder par-dessus le rebord de la fenêtre, il pointa sa baguette à travers les carreaux défoncés et se mit à marmonner des incantations d'une extrême complexité. Harry entendit alors un souffle bizarre, comme si Flitwick avait libéré dans le parc toute la puissance des vents.
« Professeur !»
dit Harry, en s'approchant du minuscule maître des enchantements.
« Professeur, je suis désolé de vous interrompre. » Mais c'est très important. Avez-vous une idée de l'endroit où pourrait se trouver le diadème de Serdaigle ?
Protégé horribilis ! Le diadème de Serdaigle !
S'étonna Flitwick de sa petite voix flûtée.
Un peu de sagesse supplémentaire ne peut pas faire de mal, Potter, mais je ne pense pas qu'il vous serait très utile dans cette situation.
Je voulais simplement dire, savez-vous où il est ? L'avez-vous jamais vu ?
Vu ? Non, personne ne l'a vu de mémoire d'homme. Il y a très longtemps qu'il est perdu, mon garçon.
Harry ressentit un mélange de désespoir et de panique. Si ce n'était pas le diadème, quel autre objet aurait pu servir d'horcrux?
Nous nous reverrons avec nos élèves de Serdaigle dans la grande salle, Filius,
dit le professeur McGonagall en faisant signe à Harry et à Luna de la suivre. Ils avaient atteint la porte lorsque Slughorn émit un grognement qui se transforma en un langage articulé.
Ma parole !»
haleta-t-il, le visage blafard couvert de sueur, sa moustache de morse frémissante.
« Quelle affaire ! Je ne suis pas du tout sûr que tout cela soit très raisonnable, Minerva. Il va certainement trouver un moyen d'entrer, vous le savez bien, et quiconque aura essayé de le retenir se retrouvera en très grand danger. »
« Je vous attends, vous et les Serpentards, dans la grande salle. Également dans 20 minutes, répliqua le professeur McGonagall. Si vous voulez quitter le château avec vos élèves, nous ne vous retiendrons pas. Mais si l'un d'entre vous tente de saboter nos efforts de résistance ou de prendre les armes contre nous dans l'enceinte de l'école, alors, Horace, nous nous livrerons à un duel à mort. »«
Oh, Minerva !» s'exclama Slughorn atterré.
« Le moment est venu pour la maison de Serpentard de décider envers qui elle sera loyale, » trancha le professeur McGonagall. « Allez réveiller vos élèves, Horace !»
Harry ne s'attarda pas pour entendre les balbutiements de Slughorn. Luna et lui coururent derrière le professeur McGonagall, qui était allé se planter au milieu du couloir et brandissait sa baguette.
« Pierre Tatum ! Oh ! Pour l'amour du ciel, Rusard ! Pas maintenant !»
Le vieux concierge venait d'apparaître en clopinant et criait «
Élève hors des dortoirs! Élève dans les couloirs!
C'est justement ce qu'ils doivent faire, bougre d'idiot! Vociféra McGonagall. Essayez plutôt de vous rendre utile! Allez chercher Peeves!
Peeves!
Bredouilla Rusard, comme si c'était la première fois qu'il entendait ce nom.
Oui! Peeves! Imbécile! Peeves! Il y a bien un quart de siècle que vous vous plaigniez de lui, non? Eh bien, allez le chercher immédiatement!
De toute évidence, Rusard pensait que le professeur McGonagall avait perdu l'esprit, mais il s'éloigna en claudiquant, les épaules voûtées, marmonnant dans sa barbe.
« Et maintenant, Pierre Tatum, le locomotor !» s'écria le professeur McGonagall.
Tout au long du couloir, les statues et les armures sautèrent aussitôt de leur piédestal, et quand il entendit le fracas qui provenait des autres étages, Harry sut que toutes les statues et armures du château avaient fait de même.
« Poudlard est menacé !» hurla le professeur McGonagall. « Postez-vous le long des enceintes ! Protégez-nous ! Faites votre devoir envers notre école !»
Martelant le sol, hurlant, s'entrechoquant, la horde des statues se précipita le long du couloir en passant devant Harry. Certaines étaient plus petites, d'autres plus grandes que leur modèle humain. Il y avait aussi des animaux, et les armures qui avançaient dans un cliquetis métallique brandissaient des épées et des masses d'armes.
« Maintenant, Potter, » reprit McGonagall, « vous et Miss Lovegood feriez bien de retourner auprès de vos amis et de les amener dans la grande salle. Je vais réveiller les autres griffons d'or. »
Ils se séparèrent en haut de l'escalier suivant. Harry et Luna revinrent en courant vers l'entrée cachée de la salle sur demande. Au passage, ils croisèrent des groupes d'élèves dont la plupart portaient une cape de voyage par-dessus leur pyjama. Ils suivaient des professeurs ou des préfets qui les conduisaient dans la grande salle.
« C'était Potter ! C'est Harry Potter ! C'était lui !
Je te jure, je l'ai vu !»
Mais Harry poursuivait son chemin sans regarder en arrière. Et enfin, ils arrivèrent à l'entrée de la salle sur demande. Il s'appuya contre le mur ensorcelé qui s'ouvrit pour les laisser passer. Et suivi de Luna, il dévala l'escalier raide. Quand la salle apparut devant leurs yeux, Harry, sous le choc, rata quelques marches. Il y avait beaucoup plus de monde que lorsqu'il l'avait quittée. Elle était bondée à présent. Kingsley et Lupin s'étaient tournés vers lui, ainsi qu'Olivier Dubois, Cathy Bell, Angelina Johnson, Alicia Spinett, Bill et Fleur, Monsieur et Mrs. Wesley.
« Harry, qu'est-ce qui se passe ?»
interrogea Lupin en l'accueillant au pied de l'escalier.
« Voldemort est en route. On barricade l'école. Rogue a pris la fuite. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Comment avez-vous su ?»«
On a envoyé des messages aux autres membres de l'armée de Dumbledore, » expliqua Fred.
Tu ne voulais tout de même pas qu'il rate la fête, Harry. L'AD a prévenu l'ordre du Phénix, et ça a fini par faire boule de neige. »
« Et par quoi on commence, Harry ?» demanda George. Quel est le programme ?»
Ils évacuent les élèves, les plus jeunes, et tout le monde doit se retrouver dans la grande salle pour s'organiser, répondit Harry.
On va se battre.
Un rugissement sonore s'éleva de la foule, et tout le monde se roua vers l'escalier. Harry se retrouva plaqué contre le mur, tandis que les autres passaient devant lui en courant, tous réunis.
Les membres de l'Ordre du Phénix, l'armée de Dumbledore et son ancienne équipe de Quidditch, leurs baguettes levées, en route vers le cœur du château. « Viens, Luna !» cria Dean en arrivant à sa hauteur. Luna prit la main qu'il lui tendait et le suivit dans l'escalier. La foule diminuait. Il ne resta bientôt plus qu'un petit groupe de personnes dans la salle sur demande, et Harry alla les rejoindre. Mrs. Weasley se débattait avec Ginny. Autour d'elle se tenaient Lupin, Fred, George, Bill et Fleur.
« Tu n'es pas majeur !»
criait Mrs. Weasley à sa fille quand Harry s'approcha.
« Je ne le permettrai pas !» Les garçons, oui, mais toi, tu dois rentrer à la maison.
Certainement pas.
Ses cheveux voletant autour d'elle, Ginny arracha son bras des mains de sa mère.
Je suis dans l'armée de Dumbledore. Un gang d'adolescents.
Un gang d'adolescents qui va se battre contre lui, ce que personne d'autre n'a osé faire,
répliqua Fred.
Elle a 16 ans,
hurla Mrs. Weasley.
Elle est trop jeune. Qu'est-ce qui vous a pris de l'emmener avec vous?
Fred et George parurent un peu honteux. Maman a raison, Ginny. Dit Bill avec douceur. Tu ne peux pas y aller. Tous ceux qui sont mineurs doivent partir, c'est normal.
Je ne veux pas rentrer à la maison,
s'exclama Ginny. Des larmes de colère brillaient dans ses yeux.
Toute ma famille est ici. Je ne pourrais pas supporter d'attendre là-bas seule, sans savoir et.
Pour la première fois, ses yeux croisèrent ceux de Harry. Elle lui adressa un regard suppliant, mais il hocha la tête en signe de dénégation et elle se détourna avec une expression amère.
Très bien.
Soupira-t-elle en contemplant l'entrée du tunnel qui menait à la tête de sanglier.
« Je vais vous dire au revoir maintenant. Et... »
On entendit alors des bruits confus, suivis d'un coup sourd. Quelqu'un avait grimpé les marches du tunnel, puis avait perdu l'équilibre et était tombé par terre. Le nouveau venu se releva et s'assit sur la chaise la plus proche. Enfin, il regarda autour de lui ses lunettes cerclées d'écailles posées de travers sur son nez et dit
« J'arrive trop tard !» C'est déjà commencé. Je viens seulement d'apprendre ce qui se passait.
Les balbutiements de Percy s'évanouirent dans le silence. Visiblement, il ne s'était pas attendu à tomber sur sa famille presque au complet. Il eut un long moment de stupéfaction, enfin brisé par Fleur, qui se tourna vers Lupin. Dans une tentative cousue de fil blanc, elle s'efforça de rompre la tension en demandant
« Au fait, oh là là, comment va le petit Teddy ?»
Lupin sursauta, interloqué. Le silence qui s'était établi entre les Weasley semblait se solidifier comme de la glace.
Ah oui, oui, il va très bien,
répondit Lupin d'une voix sonore.
Tonk est avec lui, chez sa mère.
Percy et les autres Weasley continuaient de s'observer pétrifiés.
Tenez, j'ai une photo,
s'écria Lupin en sortant de son blouson un cliché qu'il montra à Fleur et à Harry. Un bébé minuscule avec une touffe de cheveux d'un bleu turquoise éclatant agitait vers l'objectif ses petits poings potelés.
« J'ai été un imbécile !»
rugit Percy d'une voix si forte que Lupin faillit en lâcher la photo.
« Je me suis conduit comme un idiot, comme une andouille prétentieuse, et j'ai été un
crétin adorateur de ministère, assoiffé de pouvoir et déloyal envers sa famille, » acheva Fred.
Percy déglutit.
« Oui ?» C'est ce que j'ai été.
Tu ne saurais mieux dire, répliqua Fred, en tendant la main à Percy.
Mrs. Weasley fondit en larmes. Elle bondit en avant, repoussa Fred et serra Percy contre elle à l'en étouffer. Il lui tapota le dos, les yeux fixés sur son père.
Je suis désolé, papa,
dit Percy. Monsieur Weasley battit précipitamment des paupières, puis vint à son tour serrer son fils dans ses bras.
« Qu'est-ce qui t'a rendu la raison, Perse ?»
demanda Georges.
« Il y a un certain temps que j'y pense, »
répondit-il, en se tamponnant les yeux sous ses lunettes avec un coin de sa cape de voyage.
« Mais je devais trouver un moyen de me sortir de là. Et ce n'est pas facile au ministère. Ils n'arrêtent pas d'emprisonner les traîtres. Finalement, j'ai réussi à entrer en contact avec Abel Forte et il m'a confié qu'il y a 10 minutes que Poudlard était décidé à se battre. Alors, me voilà. »
Bah, il est vrai que nous comptons sur nos préfets pour assumer une fonction de commandement en des périodes telles que celle-ci,
dit Georges avec une bonne imitation de Percy lors de ses moments les plus grandiloquents.
Maintenant, montons là-haut et battons-nous, sinon tous les bons mange-morts auront déjà été pris.
Tu es donc ma belle-sœur à présent,
dit Percy en serrant la main de Fleur, tandis qu'il se hâtait en direction de l'escalier avec Bill, Fred et Georges.
Ginny!
Aboya Mrs. Weasley. Profitant de la réconciliation, Ginny avait essayé de se glisser dans l'escalier.
« Molly,
J'ai une proposition, intervint Lupin.
Pourquoi Ginny ne resterait-elle pas ici? Comme ça, elle serait sur place et saurait ce qui se passe dans le château sans être prise au milieu des combats.
C'est une bonne idée, approuva M. Wesley d'un ton ferme. Ginny, tu vas rester dans cette salle, tu m'entends?
Ginny ne semblait pas très séduite par cette idée, mais devant la sévérité inhabituelle du regard de son père, elle acquiesça d'un signe de tête. Monsieur et Mrs. Wesley, accompagnés de Lupin, se dirigèrent à leur tour vers l'escalier.
« Où est Ron ?» demanda Harry. « Et Hermione ?»«
Ils doivent déjà être dans la grande salle, »
répondit M. Wesley par-dessus son épaule. « Je ne les ai pas vus passer, » s'étonna Harry.
« Ils ont parlé de toilette, » dit Ginny, « peu après ton départ. »«
De toilette ?» Harry traversa la pièce vers la porte ouverte qui donnait sur la salle de bain de la salle sur demande et regarda à l'intérieur. Elle était vide.
Tu es sûr qu'ils ont dit des toi?
Mais sa cicatrice le brûla soudain et la salle sur demande s'évanouit. Il regardait à présent à travers le haut portail de fer forgé flanqué de colonnes surmontées de sangliers ailés. Par-delà le parc plongé dans l'obscurité, il scrutait le château illuminé, Nagini enroulée autour de ses épaules, et se sentait possédé de cette détermination froide, cruelle, qui précédait le meurtre.